Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizé Lichty.
On m'avait donné rendez-vous dans la rue, ou plutôt devant l'entrée d'un bâtiment qui abrite plusieurs entreprises. En début de semaine, me voilà devant une immense porte en bois. L'un de mes invités arrive et me dévoile l'entrée du bâtiment situé à la rue des Beaux-Arts à Neuchâtel. J'ai tout de suite été impressionnée. Une entrée majestueuse, un plafond très haut et quelques marches qui mènent au ré supérieur. C'est là que nous nous dirigeons. Après quelques mots échangés, je découvre les locaux, des traditionnelles boiseries, une cheminée dans la salle de conférence et de grandes fenêtres donnant sur le bord du lac. La pièce ou l'open space dans lequel évolue la société Raccoon n'est pas très grande, mais elle est surtout encombrée d'ordinateurs. Plusieurs bureaux possèdent même trois écrans. L'atmosphère est studieuse et les clics des souris s'alternent avec ceux des claviers. Mes deux invités sont des amis d'études, ils sont jeunes et aiment les jeux vidéo et le baby-foot. Lionel Rider et Mehmet Ongan, bonsoir.
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 À côté des points communs que je viens d'évoquer, pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble, Lionel Rider ?
Alors, c'est une histoire assez courte, c'est-à-dire qu'après un voyage aux États-Unis, en rentrant, on avait envie de créer notre propre entreprise et de voler de nos propres ailes. Et du coup, avec mon meilleur ami Xavier Gomez, à la base, c'est venu de là, on a envie de se lancer solo. Et puis, Mehmet nous a très très vite rejoint. On s'était rencontrés sur les bancs d'école, donc du coup, à la base aussi avec Mehmet.
Raccoon possède trois fondateurs. Lionel Rider, vous êtes le premier. Qui sont les deux autres ?
Alors, Xavier Gomez, du coup, le deuxième, et Léo Gerbet, qui est le troisième cofondateur.
Mehmet Ongan, vous êtes développeur web. Quel est votre parcours professionnel ?
Alors, mon parcours professionnel, c'est un CFC d'informaticien de base. Par la suite, je me suis illustré dans le domaine des crypto-monnaies, plus exactement du Bitcoin. J'avais monté un petit centre de minage, enfin, c'est vite complexe. Et par la suite, j'ai entrepris des études en informatique de gestion à l'école supérieure. Puis, j'ai rejoint l'équipe de Raccoon.
Vous, Lionel Rider, vous avez fait vos études en tant qu'informaticien ?
Informaticien de gestion, oui, à la HEG. J'ai fait mon bachelor.
Est-ce que vous vous décrivez comme des geeks, tous les deux ?
Pas du tout. Si je peux éviter d'être devant un écran en dehors du bureau, je le fais.
Lionel Rider, vous m'avez dit hors antenne que c'est quand même quelque chose d'assez péjoratif, c'est juste ?
Alors, en anglais, ouais, le mot geek, en fait, c'est un peu l'antisocial, en fait, qui ne jure que par les nouvelles technologies. Donc, c'est pas celui qui est vraiment incapable de créer des relations sociales. C'est pas vraiment notre cas, en fait. C'est-à-dire qu'on aime les nouvelles technologies, mais on aime aussi les interactions humaines.
On va dire que vous êtes des passionnés d'informatique, si ça vous va. Quand est-ce que vous avez créé votre entreprise Raccoon ?
C'était donc officieusement en septembre 2015 et officiellement au Régie du Commerce le 1er janvier 2016.
Au tout début, vous étiez dans votre cave ?
Oui, alors ça c'est un petit peu à l'européenne. Hein. Aux États-Unis, ils créent leur start-up dans le garage, nous on le fait dans les caves. Donc oui, dans ma cave, chez moi, à Marin.
Ça n'a pas été simple. Hein. Au début, il a fallu lancer une SARL, ce qui demande des finances. Comment est-ce que vous avez fait pour dégoter vos premiers clients, Lionel Rider ?
Alors, j'avais déjà des quelques clients avant de créer l'entreprise. Et du coup, en fait, c'est un travail de... Honnêtement, pendant une année, c'était très difficile de prospecter. Donc, ça vient par force de travail, vraiment.
Aujourd'hui, vous êtes combien d'employés ?
On est 6 plus un stagiaire.
Il n'y a que des hommes hein, dans votre entreprise. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le monde du web est plus masculin, Mehmet Ongan ?
Alors, je pense que oui, c'est quelque chose d'énormément beaucoup plus masculin. Si on prend l'exemple juste des bancs de l'école au CPLN, on a dans les classes rarement des filles qui sont dans le domaine de l'informatique.
Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Parce qu'il faut de la patience.
Vous êtes du même avis, Lionel Rider ?
Alors, je ne prendrai pas de risque, mais ma compagne m'écoute. Non, je dirais que c'est un domaine technique, donc forcément, c'est peut-être un petit peu moins... C'est peut-être pas très sexy, en fait. Donc, je dirais que c'est simplement que les hommes sont peut-être plus attirés par les domaines techniques et les femmes peut-être plus attirées par des domaines qui sont plus... où il y a plus d'interactions sociales, je dirais.
Mais vous avez déjà eu des stagiaires féminines ?
Oui, on a eu une stagiaire féminine avec qui ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on aurait bien prolongé l'expérience, mais c'était des stages qui avaient des durées courtes. Donc,
Ça veut dire que vous ne fermez pas la porte aux femmes?
Bien au contraire, alors, bien au contraire.
Lionel Rider, si je vous demande en deux mots, qu'est-ce que vous faites chez Raccoon? Vous me répondez quoi?
En deux mots, je dirais des applications web et des sites internet.
Vous, Mehmet Ongan, vous êtes chargé de quoi? Quel est votre job au quotidien?
Alors, ramener le café au patron.
un peu exploité?
Non. Non, pas du tout. Moi, je fais essentiellement du développement, la création, la fabrication des sites internet. Donc, écrire tout le code et tout ce qui est vraiment au clavier, quoi.
Vous vous décrivez comme une agence digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites uniquement des sites web?
Alors non, pas du tout. Le site web est juste, c'est le livrable pour le client. Derrière, il y a vraiment tout un travail de recherche. À travers un site internet, on résout une problématique. Pourquoi un site internet? Pour qui? Comment? Qui c'est qu'on vise? C'est pas juste mettre des belles images et des jolis boutons.
Est-ce qu'il y a uniquement des informaticiens dans votre entreprise, Lionel Rider?
Non, on est trois informaticiens et on a un spécialiste en marketing, donc et on a un médiamaticien, donc c'est un petit peu à mi-chemin, mais il va dire qu'il est plus orienté vraiment création et visual design, on va dire.
Depuis 2 ans d'activité, est-ce que votre manière de travailler a changé?
Complètement. Complètement. Ça, c'est une caractéristique assez typique des entreprises, donc des startups, hein, si on peut les résumer comme ça. La première année, généralement, on tente notre idée de départ, on tente avec le marché, on regarde, et souvent, on fait ce qu'on appelle des pivots. Donc là, en l'occurrence, le premier pivot, il a eu lieu fin 2016, début 2017, où on a complètement changé vraiment l'approche, en fait, de la création, de la conception d'applications et de sites Internet.
Qu'est-ce qui a changé?
Alors, c'est venu d'un constat, en fait, c'est-à-dire que le prix d'un site web est quand même relativement élevé, étant donné qu'il y a un travail en Suisse, on a des salaires qui sont assez élevés, donc enfin, bref, tous les coûts sont plus élevés. Et finalement, le client, ce qu'il pouvait en gagner, ce qu'il pouvait retirer de son site web, finalement, c'était assez faible, voire même des fois inexistant. Il dépensait des sommes importantes et gagnait rien en retour. Donc finalement, c'est venu de là, on s'est dit, ok, on peut pas continuer à proposer à nos clients des solutions finalement qui ne leur servent pas pour leur business. Donc c'est vraiment venu d'ici, de là, et on a commencé à se dire, ok, maintenant, la priorité pour nous, c'est de mettre en avant les objectifs de notre client et de mettre en place les solutions qu'il faut pour les atteindre.
Ça veut dire que vous avez un protocole que vous avez mis en place?
Alors c'est un processus qu'on appelle un peu violemment UX design. Donc UX signifie user experience, donc ça veut dire de mettre au centre de la préoccupation l'expérience des utilisateurs sur l'application de notre client. Donc vraiment essayer d'être capable d'isoler vraiment quelle est la proposition de valeur, quelle est la problématique qu'on résout, qu'est-ce qui va ramener finalement du trafic et de l'argent, hein, à notre client.
Il y a pas mal de mots anglais, hein, dans votre domaine. Est-ce que vous vous êtes inspiré, par exemple, de ce qui se passe en Amérique? Il y a beaucoup de développement, beaucoup de choses qui se passent là-bas.
Alors, complètement aussi. Donc, vraiment, c'est là-bas que ça se passe, en fait. Vraiment, au niveau des idées, au niveau du le Google Venture, par exemple, donc la section start-up de Google sont hyper productifs à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'on s'en inspire beaucoup, on lit beaucoup. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de là.
Mehmet Ongan, on l'a dit, hein, votre quotidien, c'est quand même de créer des sites web, de gérer des sites web. Est-ce que vous faites aussi des applications mobiles?
Alors, pour l'instant, là, on n'a pas eu à le faire, mais on a toutes les capacités pour réaliser n'importe quelle application, que ce soit sur smartphone, sur tablette, etc.
C'est différent de créer un site web?
Alors, c'est tout un autre domaine au niveau du langage de programmation, mais ça reste dans nos compétences très largement.
Est-ce que lorsque vous avez des mandats, vous faites tout de A à Z, ou est-ce que vous avez des choses que vous sous-traitez?
Alors, je ne parlerai pas forcément de sous-traitance, mais de collaboration avec d'autres entreprises. Par exemple, si on n'a pas le temps de s'occuper des créations graphiques, on collabore avec d'autres entreprises qui nous aident dans ce domaine-là.
On retrouve toute l'équipe de Raccoon autour d'une table. Et Mehmet Ongan, vous allez nous expliquer quelles sont les premières questions qu'on aborde avec un client.
Sortie de boîte.
Est-ce qu'il y a un budget? Si oui, de combien? Et par rapport à ça, on va établir un plan de fabrication adapté au budget du client. Si le client a des centaines et des milliers de francs, on va bien sûr lui construire une Rolls-Royce du site de réservation de l'hôtel. Si on prend l'exemple d'une voiture qu'on achète neuve, chaque option coûte un certain prix. C'est pareil dans le monde du développement.
Le budget fait partie des premières questions, c'est normal, parce que c'est vrai que des fois on a des clients qui gardent le budget pour eux comme un élément de négociation. Et le problème en fait pour nous, c'est que si on fait une offre pour une Rolls-Royce alors que le client prévoit d'acheter une Lada, on est à côté en fait. Donc, et on peut quand même faire quelque chose avec une Lada, hein. On peut quand même se déplacer, donc on peut quand même trouver des solutions même pour des petits budgets. Finalement, là, je dirais que la première question, c'est pour moi, en tout cas en tant que UX designer, vraiment ça va être quelle problématique on veut résoudre pour les clients, et finalement quel budget, quels moyens on se donne pour y arriver.
Souvent les gens voient un site internet comme une simple affiche, on va dire, sur la toile. Mais au final, il faut voir ça comme un collaborateur de l'entreprise qui va rapporter un retour sur investissement et qui n'est pas seulement juste un coût pour être présent sur les réseaux, sur Internet.
Alors, je suis arrivé chez vous, je vous ai donné mon budget, mes objectifs. Ça se passe comment après ? Et ça prend combien de temps ?
Ça peut très bien prendre juste quelques jours et jusqu'à plusieurs mois. Tout dépend toujours de l'ampleur du projet. Si on prend l'exemple d'un site pour la réservation de chambres dans un hôtel, si on prend par exemple que la réservation d'une chambre à une certaine date, ça prendra peut-être une semaine, deux semaines, si on n'a pas de maquette graphique à réaliser ou si on doit vraiment s'occuper de tout. Là, on va plus aller sur un, voire deux mois pour vraiment réaliser la totalité du projet. Et après, on peut très bien ajouter des options sur un site de réservation. On va rajouter le petit déj au lit, si on va ajouter la coupe de champagne qui est déjà à notre arrivée, etc. À ce moment-là, ce sera des petites difficultés en plus, mais rien d'alarmant.
Alors le comment ? C'est-à-dire dès qu'on s'est mis d'accord sur une offre, sur un prix, puis qu'on a signé l'offre, on fait une séance de kick-off, c'est le démarrage. Donc on se met tous autour d'une table, tous les intervenants du projet, et puis on décide par quoi on commence, par où on va commencer pour chercher de l'information, et puis on définit un peu une sorte de planning. On n'est pas très très fan des plannings parce qu'ils sont intenables souvent. Et très très souvent, nous on dit à nos clients qu'en 45 à 90 jours, on peut avoir une version 1.
Sortie de boîte.
Le reportage que vous venez d'entendre a été réalisé par Joël Picromain. Lionel Rider, on a évoqué comment vous vous y preniez avec vos clients. Combien est-ce que Raccoon a de clients à l'heure actuelle ?
Alors c'est assez difficile à faire le compte exact, enfin difficile, c'est-à-dire qu'on a des clients de toutes sortes pour différents produits, donc on a fait le compte, on a à peu près à 80 clients.
À l'heure actuelle ?
Oui.
Ou depuis le début ?
Depuis le début.
Et à l'heure actuelle, vous êtes 5 employés, gérer combien de clients en même temps ?
Alors actif, alors beaucoup moins du coup. On peut en gérer entre gérer maximum 10, et 10 ça me paraît maximum. Là actuellement je crois qu'on est autour des 6.
Vous venez d'évoquer, vous avez plusieurs types de clients. Je pense que ça part d'une personne privée jusqu'à une grande, grande entreprise. Vous pouvez un peu peut-être en citer quelques-uns pour qu'on puisse se faire une idée ?
Alors, ça va des clients. Alors, c'est difficile de qualifier des clients petits, des clients plus gros. On va dire, si on prend par nombre d'employés, on a par exemple l'entreprise Vitroxa, qui est, je pense, notre plus grand client, du coup, en termes d'employés. Qui est une entreprise, dans le domaine alors c'est difficile à expliquer. Ils font des cadres de fenêtres en fait, donc ils font des cadres de fenêtres minimaux, et puis donc ils avaient besoin de toute une enquête, et donc ça fait partie de notre plus gros client. Et puis dans les plus petits, on a plein. Il y a par exemple Square qui est pas loin d'ici. Il y a plusieurs petits clients. On a même des associations, les Knights de Neuchâtel par exemple aussi. Donc c'est assez varié en fait. Et même les domaines sont variés.
Mais mettons Gann, ça veut dire que si moi j'ai envie de créer mon site internet, ou par exemple mon blog, qui est assez à la mode, je peux venir vers vous.
Évidemment.
Les prix, c'est quelque chose d'abordable pour par exemple quelqu'un comme moi qui veut me lancer seul dans, entre guillemets, un délire personnel ?
On sait s'adapter par rapport aux partenaires.
Ça veut dire que l'échelle, ça va de combien à combien, Lionel Rider ?
Au plus bas, autour des 7000 francs. Et puis au plus haut, après, ça peut aller. On n'aime pas non plus aller dans des prix au mandat trop, trop élevés, parce que finalement, ce n'est pas significatif. On préfère travailler différemment. Mais ça peut aller au-delà des 50 000 francs jusqu'à 100 000 francs.
Vous avez mis en place un système d'abonnement pour les clients, c'est juste ?
Exactement.
Pouvez-nous l'expliquer ?
Alors justement, ça fait partie de ce problème, en fait. C'est-à-dire que si on veut pouvoir faire une offre à 100 000 francs, on doit par exemple détailler toutes les fonctionnalités qu'on va devoir faire ou que le client aimerait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le client, il va changer d'avis, ce qui est normal, parce que son métier, son environnement va changer aussi, va évoluer, ses besoins vont évoluer, et du coup, on se retrouve avec des offres, finalement, qu'on passe notre temps à refaire, on parle d'argent constamment, parce que du coup, ça ne correspond plus à ce qu'on a défini à la base, et puis il y a de façon un perdant, finalement. Donc, le fonctionnement qu'on a décidé de mettre en place, c'est-à-dire qu'on prend le budget du client, donc on doit avoir une discussion ouverte avec le client qui nous dit, voilà, je vais mettre... X milliers de francs dans mon site internet ou dans mon application, et on définit en fait une vitesse, c'est-à-dire un rythme de travail, selon donc une somme chaque mois, et sur cette somme-là, en fait, on adapte, on affine chaque mois le travail qu'on va faire, et là où on va mettre la priorité, et là où on va mettre l'accent, on va dire, pour finalement créer le plus vite de la valeur pour notre client.
Ça veut dire que je peux choisir, soit vous me faites un site internet maintenant, et vous le faites le plus rapidement possible, ou alors tous les mois, durant par exemple 2 ans, vous vous occupez de gérer mon site internet, ça c'est possible ?
C'est exactement ça, ouais. C'est avec la petite particularité qu'on peut aussi, la somme et la vitesse est renégociable tous les 30 jours. Donc il y a cette flexibilité pour le client, il n'est pas pris au piège pendant 2 ans en fait avec nous.
L'informatique, les sites internet sont partout et tout le monde les consomme. Du coup, il doit y avoir beaucoup d'entreprises qui créent justement des sites internet. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer, Lionel Rider ?
Alors, il y a effectivement une très très forte concurrence. Notre facteur de différenciation principal, je dirais que c'est notre méthode de travail, c'est-à-dire notre manière d'atteindre les objectifs du client. Et finalement aussi cette manière de travailler au niveau des abonnements.
On va faire une petite parenthèse dans ce monde qui peut paraître geek, hein, comme on l'a dit. Si l'horlogerie vous ennuie, si les montres vous semblent toutes similaires, Corum a peut-être quelque chose pour vous. La chronique horlogère est signée Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Vois ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?
Contrairement aux apparences, cette chronique n'est pas un hommage à Johnny Hallyday, disparu récemment, même si le rocker était amateur d'horlogerie. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? C'est le titre d'un communiqué transmis par Corum, la maison horlogère installée à La Chaux-de-Fonds, nous interpelle ainsi. Si l'horlogerie vous endort, si les conventions vous ennuient, si la tradition séculaire vous fait bâiller, Corum a quelque chose pour vous. Alors avouez-le, là vous êtes intrigué, j'en suis sûre. Et pour ce quelque chose, l'entreprise a collaboré avec Matt Barnes. Non, non, pas celui-là, pas le basketteur américain qui a annoncé sa retraite le mois dernier, pas le bad guy de la NBA. Le Matt Barnes, dont on parle, est aussi américain, mais c'est un artiste. Alors c'est vrai, il n'est pas réputé pour son respect des conventions esthétiques. C'est sûrement ce qui a plu à Corum, d'ailleurs. Ensemble, ils ont créé une montre baptisée Bubble Clone. Alors le clown en question, celui dont le visage s'affiche sur le cadran de la montre, ce n'est pas le gentil clown qui fait rire les enfants et attendrit les adultes. Et non, ce clown-là, il a un sourire pernicieux avec des dents acérées, un regard perçant, des tatouages partout sur le cou et le torse et un cigare au coin des lèvres. On est plus proche du clown qui fait peur de Stephen King que d'Achille Zavatta. La montre Bubble Clown est grosse, très grosse, 47 mm. Elle n'a pas d'aiguille, mais 2 petits cercles rouges pour indiquer l'heure et les minutes. Et elle a un vert particulièrement bombé qui crée un effet loupe, ce qui accentue encore la physionomie inquiétante du clown.
Pile à l'heure.
On vient de parler d'une montre innovante. Restons dans le domaine de l'innovation, puisque votre entreprise Raccoon est organisée d'une manière novatrice et transparente. En fait, il n'y a pas de filtre. Tous les employés sont logés à la même enseigne, Mehmet Ongan.
Alors oui, premièrement, j'ai horreur du terme employé. On est tous des collaborateurs. Effectivement, on a une hiérarchie complètement plate, à l'horizontale. Donc, il n'y a pas de système de patronat, de chef, de directeur ou quoi que ce soit. Que ce soit un stagiaire, que ce soit un chef de projet ou n'importe qui peut participer à n'importe quelle des séances avec n'importe quel des clients.
C'est également transparent au niveau du budget, des finances ?
Tout, vraiment tout. Le lundi matin, on fait une petite séance hebdomadaire où Léo nous fait une présentation de la situation financière de l'entreprise et tout le monde a accès à tous les soldes, tout ce qu'on paye, combien il y a sur le compte.
Vous allez même plus loin, Lionel Rider, avec un congé paternité, par exemple ?
Oui, alors Pour finalement appuyer encore ce que disait Mehmet, c'est vrai qu'au final, les informations sont ouvertes à tous les employés, tous les membres de l'entreprise, on va dire, parce que c'est vrai que le terme employé, on l'aime pas trop. Après, il y a quand même une notion finalement de confidentialité à l'extérieur, c'est évident, hein, mais à l'interne, on aime bien cette transparence. Et puis, on essaie aussi d'être progressiste sur certains sujets, comme évidemment le congé paternité, qui est d'ailleurs, il y a une initiative qui est en ce moment en cours, où là, on donne 20 jours à nos employés qui peuvent à nos collaborateurs qui peuvent prendre sur l'année. Comme ils le souhaitent. Et voilà, ça fait partie aussi donc des activités, de la culture d'entreprise, en fait. On a vraiment envie de véhiculer. Et on a aussi maintenant mis en place 3 jours de vacances supplémentaires pour les non-fumeurs.
Ces idées ou cette hiérarchie, on peut l'appeler peut-être hiérarchie plate, vous vous êtes inspiré de quelque part ou vous l'avez inventé ?
Alors, on ne l'a pas inventé. Je ne crois pas qu'on l'ait inventé. Par contre, on n'a même pas vraiment eu besoin de réfléchir, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment la manière dont on voulait travailler, parce qu'on avait l'impression que les titres, vous savez, ces titres qui disent directeur administratif ou des titres un peu pompeux, finalement, ne sont pas significatifs vraiment du travail qu'on fait. Et puis ça donne un peu un ordre hiérarchique qu'on trouve finalement contre-productif pour le travail.
Quels sont concrètement les avantages de cette manière de travailler ?
Ah bah les avantages, c'est que du coup, quelqu'un qui rejoint l'entreprise, il a un temps d'adaptation, parce qu'il doit comprendre, hein, s'il vient d'un autre milieu, il doit vraiment comprendre comment ça marche. Ça ne marche pas avec tout le monde. Et après, l'avantage, c'est qu'il y a une collaboration qui est complètement ouverte, une transparence. Tout le monde sait évidemment combien on gagne, les salaires sont transparents. Il y a une ambiance qui est saine, en fait, vraiment. C'est sain dans les relations de travail.
Lorsqu'on parle de vêtements ou de films, il y a des tendances. Est-ce qu'on peut parler de mode technologique ou de mode sur Internet, Mehmet Ongan ?
Alors, de mode, non, pas forcément. Il y a des choses tendances, on va dire.
Par exemple, il y a des couleurs que vous suivez pour créer des sites Internet ou pas du tout ?
Alors, moi, je cherche toujours plutôt l'originalité que la tendance, on va dire. Mais si on prend cette année en 2018, ce qui va être très à la mode, c'est les couleurs en dégradé.
Vous êtes d'accord, Lionel Rieder ?
Oui, alors il y a des tendances au niveau des couleurs, il y a des tendances aussi au niveau typiquement il y avait une époque c'était la mode de mettre des vidéos en plein écran quand on arrivait sur un site, donc c'est vrai que c'était une mode que beaucoup de gens ont suivi. Il y a toujours un truc auquel il faut faire attention finalement, il faut que ça serve le propos, on va dire. Il faut pas que ce soit quelque chose qui répugne les gens ou qui les repousse, typiquement la vidéo avec volume à fond, quand on arrive sur le site internet, souvent les gens, le premier réflexe c'est de fuir rapidement.
Pour terminer, peut-être si je vous demande, avec qui est-ce que vous rêveriez de travailler ?
Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'on est tous un petit peu... On adore tout ce qui touche à l'espace, tout ce qui touche vraiment à l'univers. On adorait, je pense, travailler pour une organisation type l'ESA ou la NASA, hein, si on se met vraiment à rêver. On avait eu d'ailleurs une idée de projet à l'époque pour Claude Nicollier. Où là, effectivement, on avait été invité à un événement, on l'avait rencontré, mais on n'avait jamais eu le temps de lui proposer. Puis c'est vrai que ça serait une idée, peut-être qu'on pourrait mettre sur le tapis. Donc, s'il nous entend, qu'il n'hésite pas à nous contacter, du coup.
Eh bien, l'appel est lancé, enfin, on l'espère, du moins. L'émission économique prend fin. Merci à vous deux d'être venus partager votre univers digital avec nous et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
La semaine prochaine, il sera question de coaching horloger dans Sortie de boîte. Nicolas Roth a lancé l'entreprise NRS Performance il y a 2 ans. Ce sera l'occasion de parler d'une activité peu connue, mais quand même assez innovante, vous le verrez. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine à la même heure. D'ici là, très belle soirée.
Sortie de boîte.